France Inter. Les admirations littéraires de
Félix Moati. Je vais lire quelques passages de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, qui, son nom hébraïque, c'est le Kohelet. Le Kohelet, ça veut dire littéralement celui qui s'adresse à la foule. C'est un texte qui se trouve dans la Bible hébraïque, dans l'Ancien Testament, qui est attribué généralement au roi Salomon, fils de David. Mais certains critiques, notamment Voltaire par exemple, ont dit que Salomon ne pouvait pas en être l'auteur. Donc il y a quand même un mystère autour de qui a écrit ces quelques lignes. Si ça a été écrit par Salomon, ça a été écrit vers la fin de sa vie, il était âgé, et c'est vrai que moi j'ai découvert ce texte à 18 ans, et je sais pas, ça a eu une résonance, peut-être que j'étais un peu une vieille âme, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un texte qui m'a été transmis par mon père. Donc en plus, il y a une dimension assez émouvante et affective. C'est un texte qui m'a fait lire assez jeune et qui n'a jamais cessé de me hanter. Et je le relis très souvent. À la lecture, vous allez reconnaître plein de phrases qui sont devenues proverbiales, qui ont comme ça imprégné notre culture populaire et notre langage presque ordinaire. Mais sauf qu'on n'en connaît pas l'origine, eh bien... Vous serez heureux d'apprendre que ça vient de l'Ecclésiaste. C'est un traité de sagesse absolument splendide, une mélopée désenchantée. Je vous propose qu'on écoute le premier chapitre. Vanité des vanités, disait Kohelet. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit l'homme retire-t-il des peines qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération lui succède. La terre, cependant, reste à sa place. Le soleil se lève, le soleil se couche, puis il regagne en hâte le point où il doit se lever de nouveau. Tantôt soufflant vers le sud, ensuite passant au nord, le vent tourne, tourne sans cesse, et revient éternellement sur les cercles qu'il a déjà tracés. Tous les fleuves se jettent dans la mer, et la mer ne regorge pas, et les fleuves reviennent au lieu d'où ils coulent, pour couler encore. Tout est difficile à expliquer. L'homme ne peut rendre compte de rien. L'œil ne se rassasie pas à force de voir, l'oreille ne se remplit pas à force d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui est arrivé arrivera encore. Rien de nouveau sous le soleil. Quand on vous dit de quelque chose, venez voir, c'est du neuf, n'en croyez rien. La chose dont il s'agit a déjà existé dans les siècles qui nous ont précédés. Les hommes d'autrefois n'ont plus chez nous de mémoire. Les hommes de l'avenir n'en laisseront pas davantage chez ceux qui viendront après eux. Alors ça, c'est l'ouverture de l'Ecclésiaste. C'est ce premier chapitre où le Kohelet, donc celui qui s'adresse à la foule, nous expose immédiatement son éthique, c'est-à-dire une méfiance vis-à-vis de la nouveauté, et l'idée que sous le soleil, comme puisque c'est l'expression consacrée, tout est cyclique, et que les choses se répètent, et que quand on croit voir apparaître quelque chose de nouveau, en fait, ça a déjà été. Donc il y a quelque chose d'assez mélancolique, et une sorte de litanie, comme ça. Et je trouve, on verra par la suite, mais je trouve que c'est un texte très musical.
Blessed be
Les admirations littéraires de Félix Moati. Alors là, je vais vous lire le chapitre 3, donc je saute le chapitre 2, puisque entre le chapitre 1 et le chapitre 3, il y a le chapitre 2. Et donc, dans le chapitre 2, il a fait le constat que la sagesse et l'accumulation des richesses, ça ne rendait pas l'homme plus heureux. Voilà le développement de la pensée du Kohelet, de Salomon. Il dit « Alors je me dis à moi-même, voyons, essayons de la joie, goûtons le plaisir. Je devais reconnaître que cela aussi est vanité, car bientôt, au rire je dis folie, au plaisir, que me veux-tu ? Je résolus, dis-je, en mon cœur, de demander au vin le bien-être de ma chair, et sans renoncer pour cela à mes projets de sagesse, d'adhérer momentanément à la folie, jusqu'à ce que j'eusse découvert ce qui vaut le mieux pour les fils d'Adam, entre tant d'occupations diverses auxquelles ils se livrent sous le soleil, durant les jours de leur vie. Je fis de grandes œuvres, je me bâtis des palais, je me plantais des vignes, je me construisis des jardins et des parcs, j'y plantais des arbres fruitiers de toutes sortes, je fis creuser des réservoirs d'eau pour arroser mes bois de hautes futaies, j'achetais des esclaves des deux sexes, si bien que le nombre des enfants de ma maison, de mes bœufs et de mes brebis, surpassa celui que personne n'eût jamais possédé avant moi à Jérusalem. En même temps, j'entassais dans mes trésors l'argent, l'or, l'épargne des rois et des provinces. Je me procurais des troupes de chanteurs et de chanteuses, et toutes les délices des fils d'Adam, de quelque genre que ce fût. Ainsi je devins plus grand, et amassai plus de biens que tous ceux qui avaient été avant moi à Jérusalem, sans que pour cela ma sagesse m'abandonnât. Et je ne refusai à mes yeux rien de ce qu'ils souhaitèrent, je n'interdis à mon cœur aucune joie. Après tout, me disais-je, je ne fais que jouir de ce que j'ai gagné par mon travail. Ces plaisirs sont la récompense des peines que je me suis données. Puis, m'étant mis à considérer les œuvres de mes mains et les travaux auxquels je m'étais livré, je reconnus que tout est vanité et pâture de vent, que rien n'est profit solide sous le soleil. C'est très étrange parce que ce texte, qui est traversé par un pessimisme évident, fait aussi l'éloge, j'ai l'impression, d'une forme d'épicurianisme. Et d'ailleurs, c'est ce que diront des critiques plus tard, c'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on n'attribue pas forcément ce texte à Salomon, qu'on dit qu'il a peut-être été écrit au 3e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire dans un frottement avec la Grèce antique, avec la pensée hellénistique, et donc avec des philosophies telles que l'épicurisme ou le stoïcisme. Parce que là, en effet, il y a quand même un éloge qui est fait des plaisirs du vin, de la chair. Voilà, malgré cette mélopée désenchantée, peut-être est-il possible de goûter à des joies. Alors là, je vais vous lire un petit extrait du chapitre 4 qui suit juste celui que je viens de vous lire. Je me pris alors à étudier quelle différence il peut y avoir entre la sagesse d'une part, la folie et la sottise de l'autre. Car, me disais-je, quel homme venant après un roi peut refaire les expériences qu'il a faites ? Je crus d'abord que la supériorité de la sagesse sur la sottise est comme la supériorité de la lumière sur les ténèbres. Le sage a des yeux dans sa tête et le fou marche dans la nuit. Or, bientôt, je vis qu'une même fin est réservée à tous les deux. Et je pensais en moi-même, si la destinée qui m'attend est la même que celle du fou, que me sert alors d'avoir travaillé sans relâche à augmenter ma sagesse ? Et je dis en mon cœur, encore une vanité. Il n'y a pas plus de souvenir éternel pour le sage que pour le fou. Dans ce qui sera le passé des jours à venir, tout sera oublié. Comment se fait-il que le sage et le fou meurent de la même manière ? Ces réflexions me firent prendre la vie en haine. J'eus de l'aversion pour tout ce qui se passe sous le soleil, voyant que tout est vanité et pâture de vent. Alors ça, c'est un constat amer et désespéré, c'est-à-dire que l'auteur nous dit que finalement, celui qui conduit sa vie avec sagesse ou celui qui se laisse gagner par la folie, pour eux deux, le destin est le même, c'est-à-dire aller vers une mort certaine. Donc à partir de là, à quoi bon mener une vie sage ? À quoi bon ? D'ailleurs, cette idée du « à quoi bon », c'est l'idée majeure de l'Ecclésiaste. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui a encore une signification, si le sage et le fou ont la même destinée. Alors là, je demande une attention particulière. Je vais vous lire le chapitre 5, vous allez voir. Ça, c'est vraiment un passage qui est parmi les plus connus. Généralement, on ne sait pas que cette expression vient de ce livre-là, de l'Ecclésiaste. Pourtant, c'est bien de là que ça vient. Il y a un temps pour tout, et chaque chose sous le ciel a son heure. Temps de naître et temps de mourir, temps de tuer et temps de guérir, Tant de planter, tant de détruire, tant de bâtir, tant d'arracher, tant de gémir, tant de danser, tant de pleurer et tant de rire, tant d'assembler les blocs, tant de les disperser, tant d'aimer les baisers et tant de les maudire, tant de poursuivre un rêve ou de se l'interdire, tant d'aimer un objet, tant de le repousser, tant où l'on coud, où l'on déchire, tant où l'on parle, où l'on se tait, tant où l'on hait, où l'on soupire, tant de la guerre et tant de paix. Donc, conclus-je alors, il n'y a qu'une seule chose bonne pour l'homme, c'est de se réjouir et de goûter le bonheur pendant qu'il vit. On reconnaît ici, vous voyez, c'est une expression qui est devenue proverbiale, puisque on dit tous très souvent, toutes et tous très souvent, il y a un temps pour tout. Et bien cette expression, cette expression-là vient de l'Ecclésiaste. Et moi j'aime beaucoup, voilà, cette idée que l'existence est fragmentée par des temps consacrés. Voilà, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir, et que dans l'existence il y a un temps pour tout. Je trouve que c'est d'une sagesse assez inouï, et j'aime beaucoup lire ce passage. Je le relis souvent. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene también. Estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. No sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, daño psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará
a él como icono, sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes la, no lo devolverá, salva la perdida, es su especialidad, la lealtad y la fidelidad, es un idioma que nunca entenderá, su masterpiece, su colección de.
Nous sommes en train de lire l'Ecclésiaste, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Là, soudainement, on est au chapitre 7. C'est assez drôle, puisque l'Ecclésiaste devient alors un traité de justice sociale. Et ça, ça m'a toujours étonné que dans ce court texte qui fait une cinquantaine de pages, il y ait comme ça des saillies sur la justice et sur l'oppression. Et on voit que donc ce texte nommait jamais, nommait pas la vie en société. C'est pas que un traité de sagesse complètement décorrélé de la réalité sociale, il y a aussi ça. Donc je vous le lis, chapitre 7. Et je me remis à observer, et je vis les actes d'oppression qui se passent sous le soleil. Partout, des opprimés baignés de larmes, et personne pour les consoler. Des gens suppliant qu'on les tire des mains de ceux qui les oppriment, et personne pour les délivrer. Alors je félicitais les morts, préférant le sort de ceux qui ont disparu avant nous, au sort des vivants dont l'existence s'est prolongée jusqu'à présent. Plus heureux que les uns et que les autres, me parurent ceux qui n'ont jamais existé, puisqu'ils n'ont pas vu les choses qui se passent sous le soleil. Je compris que tout effort, tout succès se résume en jalousie, en désir de surpasser son semblable. Encore une vanité, une pâture de vent. Quand il dit « je compris que tout effort, tout succès se résume en jalousie, en désir de surpasser son semblable », il y a quelque chose d'une lucidité désespérée, de dire que les rapports humains sont finalement corrompus par le désir de, par un désir de surpasser l'autre, de surpasser son prochain, de surpasser son semblable. Et quand il dit qu'il associe ça à une vanité, c'est que tout ça esquinte le sens qu'on peut donner à l'existence. Tout ça esquinte la signification qu'on peut donner à la vie. Je trouve ça magnifique à titre personnel. Là, on fait un gros saut en avant. C'est quelques lignes juste du chapitre 14. Trois lignes. L'homme ne travaille que pour sa bouche et n'arrive pas encore à se rassasier. Quel avantage a le sage sur le fou? Que revient-il à l'homme modeste qui s'applique à marcher avec sagesse devant les vivants? Mieux vaut vivre à sa guise que de s'exténuer. Trop de vertu est aussi une vanité, une pâture de vent. Tout ce qui existe est déterminé avant d'exister. Tel être a été prédestiné à naître homme, il ne pourra pas tenir tête à plus fort que lui. Alors voilà, c'est quand même un texte très énigmatique et mystérieux qui n'a de cesse de se contredire, qui passe par des moments de complètement désenchantés et désespérés, d'autres moments qui font l'éloge de la joie et des plaisirs de la chair, à la fois une espèce de méfiance vis-à-vis de la nouveauté en disant que tout ce qui a lieu sous le soleil a déjà existé. Et en même temps, il y a quelque chose, je sais pas moi, dans ce texte qui me rend heureux. Je sais pas pourquoi c'est un texte qui me rend heureux. Peut-être parce que il débarrasse des vanités au sens où l'entend l'Ecclésiaste, à savoir de l'évanescence, de l'illusion. C'est pas la vanité au sens de quelque chose qui est vain, je pense. C'est la vanité au sens de l'illusion, de l'évanescence, de l'éphémère, du fragile, du friable. Et en se débarrassant de ça, peut-être qu'on peut vivre. Ce qui vient, par exemple, illustrer les contradictions de ce texte. Là, on est au chapitre 20. On vient de lire des pages absolument désespérées, désenchantées. Et vous allez voir ce que va nous dire l'Ecclésiaste. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué ma pensée aux faits qui arrivent sous le soleil, dans un temps où l'homme ne domine sur l'homme que pour lui faire du mal. Alors j'ai chanté un hymne à la joie, puisqu'il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil que de manger, de boire, de se réjouir, et que c'est là tout ce qui lui reste des travaux auxquels il s'est livré durant les jours de vie que Dieu lui a donné sous le soleil. Cherchant la vérité, poursuivant ma tentative de savoir tout ce qui se passe sur la terre, je vis ainsi les œuvres de Dieu passer sous mon regard, et je reconnus que l'homme, quand même jour et nuit il refuserait le sommeil à ses yeux, ne saurait arriver à la compréhension de ce qui arrive sous le soleil. Non, quelque effort, quelque recherche qu'il fasse, il n'y arrivera jamais. Et tel savant qui prétend en savoir quelque chose, en réalité, n'y comprend rien. Donc il y a cet éloge de la joie, quand il dit j'ai chanté un hymne à la joie, il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil que de manger, de boire, de se réjouir. C'est quand même, voilà encore une fois, le texte qui se contredit lui-même. Et je trouve que c'est ça l'incroyable richesse de ce qu'on est en train de lire, c'est que c'est un texte qui déplie une pensée faite de contradictions et de paradoxes. Donc là, il y a cet éloge de la joie. Et ensuite, il y a quelque chose que je trouve très intéressant et qui a une résonance, je trouve, avec notre époque où chacun se sent obligé de donner son avis absolument sur tout et où on est une période de faux prophètes et d'experts en tout genre. Et quand il y a écrit tel savant qui prétend en savoir quelque chose, en réalité n'y comprend rien. Je trouve que c'est d'une sagesse assez inouïe, parce que c'est très rare de confesser son ignorance. Et voilà que cet homme ou cette femme qui a écrit ce texte confesse son ignorance et suspend son avis et son jugement. Je trouve ça assez salvateur. On est chapitre 21. Il n'y a en effet qu'une même destinée pour tous, pour le juste comme pour le méchant, pour l'homme vertueux comme pour l'impie, pour celui qui est pur comme pour celui qui est souillé, pour celui qui sacrifie comme pour celui qui ne sacrifie pas. Le meilleur des hommes est traité comme le pécheur, le parjure comme celui qui respecte le serment. Voilà le plus grand mal qu'il y ait sous le soleil, c'est qu'il n'y a qu'une même destinée pour tous. Voilà pourquoi l'âme des enfants d'Adam est pleine de méchanceté. La folie habite leur cœur pendant leur vie. Après cela, ils s'en vont chez les morts. Or, cela vaut-il mieux ? Non, les vivants au moins ont l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent rien. Pour eux, plus de récompense, car leur mémoire est oubliée. Leurs amours, leurs haines, leurs rivalités ont péri depuis longtemps, et il n'y a plus désormais de part pour eux en tout ce qui se fait sous le soleil. Et à la fin de ce chapitre, il dit « Toute affaire qui se présente à la portée de ta main, fais-la vite, car il n'y aura ni activité, ni pensée, ni savoir, ni sagesse dans le shéol vers lequel se dirige tout tes pas. » Le shéol, c'est, dans la tradition juive, censé être l'endroit où vont les morts. Et il y a cette idée, toujours cette idée très désespérante et désespérée que, en fait, il n'y a pas de rétribution. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une vie vertueuse, juste, qu'on fait preuve de sagesse, que notre destinée sera différente de celle des individus qui mènent une vie injuste, pécheresse. Voilà. Il n'y a pas de rétribution. D'un point de vue philosophique, ça veut dire que le malheur est très, très difficile à penser. C'est-à-dire que, si on est heureux, c'est pas parce qu'on le mérite. Si on est malheureux, c'est pas parce qu'on le mérite. C'est les débuts des les prémices d'une réflexion sur le malheur aussi. Le malheur de la condition humaine. Voilà, moi je trouve ça, quand il dit, voilà le plus grand mal qu'il y ait sous le soleil, c'est qu'il n'y a qu'une même destinée pour tous. C'est vrai que, en tout cas, tous, nous avons la certitude que ça va finir. Et c'est peut-être ce qui nous rend égaux. Voilà. Moi, à titre personnel, ça me rend angoissé.
Il m'aura fallu faucher les blés, apprendre à manier la fourche, pour retrouver le vrai, faire table rase du passé. La discorde qu'on a semée à la surface des regrets n'a pas pris. Souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore moi. Les pluies acides décharnent les sapins. J'y peux rien, j'y peux rien. Coule la résine, s'agglutine le venin. Je crains plus la mandragore, je crains plus mon destin. Je crains plus rien. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore à moi.
Alors aujourd'hui, mes admirations littéraires se portent sur l'Ecclésiaste, qui est un livre de sagesse qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et c'est donc Kohelet qui nous adresse ce texte. Kohelet, littéralement, ça veut dire celui qui s'adresse à la foule. Donc Kohelet, ce serait Selon certains critiques, ce serait le roi Salomon. Et voilà, là c'est le chapitre 22. J'ai vu encore sous le soleil que, quand il s'agit de course, on ne s'adresse pas aux meilleurs coureurs. Que quand il s'agit de guerre, on ne fait point appel aux braves. Que le pain n'est pas pour les sages, ni la richesse pour les intelligents, ni la faveur pour ceux qui savent. Les circonstances et le hasard règlent tout, et l'homme ne connaît pas plus l'heure de sa destinée que les poissons pris dans les raies et les oiseaux pris au piège. Comme eux, les fils d'Adam sont engagés dans des filets pour l'heure fatale qui tombe sur eux, à l'improviste. Voici un exemple de sagesse que j'ai vu sous le soleil et qui m'a paru frappant. Une petite ville comptait très peu d'habitants. Un roi puissant marcha contre elle, l'assiégea et bâtit autour d'elle de grandes contrevallations. Or, il se trouva dans cette ville un pauvre homme sage. Et il fit si bien qu'il délivra la ville par sa sagesse. Et maintenant, personne ne se souvient de ce pauvre homme. Et je fis deux réflexions. Mieux vaut sagesse que forteresse. La sagesse du pauvre est vite méprisée. À ses conseils, toute oreille est fermée. Alors voilà, c'est encore une fois ce que le Coëlet considère comme injuste, à savoir que quand il s'agit de course, on ne s'adresse pas aux meilleurs coureurs. Quand il s'agit de guerre, on ne fait pas appel aux braves. Cette espèce de sentiment d'absurdité de l'existence qui traverse tout le texte, comme si les choses n'avaient pas de sens, pas de signification. Et il constate, il souligne l'injustice du fait que la sagesse, finalement, le sage ne récupère aucune rétribution à sa sagesse. Voilà. Et ça, c'est un truc assez majeur dans le texte. C'est que, en effet, le sage et le sot, comme il le dit souvent, le sage et le sot ont la même destinée, vont tous les deux vers une mort certaine. Alors, pourrait-on croire, à quoi bon être sage? Là, c'est le chapitre juste après, le chapitre 23, et le Coëlet continue ses réflexions sur la sagesse. La voix du sage, écoutée en silence, vaut mieux que les clameurs du roi des étourdis. La sagesse vaut mieux que les engins de guerre. D'un autre côté, un seul pêcheur suffit pour annuler beaucoup de biens. Une mouche morte gâte tout un vase de parfums. De même, tout le prix de la sagesse et de la gloire est détruit par un peu de folie. À droite est le cœur du sage, à gauche est le cœur du sot. Rien qu'à voir le sot faire un pas sur la route, on voit que la tête lui fait défaut. Par sa seule démarche, il dit à tout le monde « Je suis un sot ». Il faut savoir se tenir. Si la colère du souverain s'allume contre toi, ne quitte pas trop vite ta place. Car si on se lève trop vite, on donne mieux de croire qu'on a commis de grands méfaits. Voilà, alors c'est encore une fois les réflexions que le Coëlet poursuit sur la sagesse et qu'il vaut mieux être sage. En fait, c'est un texte assez qui ne fait que se contredire d'un chapitre à l'autre. C'est ça que je trouve assez passionnant. C'est peut-être ça, la définition même de l'intelligence, c'est se faire tenir des idées apparemment contradictoires l'une à côté de l'autre. Et c'est vrai que tout à l'heure, il nous dit que la sagesse, à quoi bon être sage puisque le sage et le sot ont la même destinée. Et puis là, quand même, en ouverture de chapitre, il nous dit que la sagesse vaut mieux que les engins de guerre. Donc la sagesse vaut mieux que les autres choses. La sagesse vaut mieux que la violence, notamment. Mais il dit qu'il faut être très vigilant parce que un seul grain de folie peut annuler toute cette sagesse. Voilà. C'est le dernier passage que je vais vous lire. Et je trouve ça splendide. Déjà, je tiens à préciser que cette traduction, parce que l'Ecclésiaste a été traduit par plein de gens, la traduction que je suis en train de vous lire, c'est celle d'Ernest Renan, qui a écrit par exemple La vie de Jésus aussi. Mais il y a plein d'autres traductions très bien. C'est le chapitre 27. Je vais vous lire juste les premières lignes de ce chapitre 27, qui est le dernier chapitre de l'Ecclésiaste, et qui est une adresse, enfin, à la jeunesse. Une adresse étrange. D'ailleurs, il y a beaucoup de commentateurs qui ont dit que ce texte était en deux voix, en fait, que ce texte avait été peut-être écrit par deux personnes, une personne âgée et une personne beaucoup plus jeune. En tout cas, là, ce qui est certain, c'est que c'est une adresse à la jeunesse et qu'on finit cette mélopée désenchantée, ce chant désespéré, par une adresse à la jeunesse, et je trouve ça très réjouissant. D'ailleurs, chapitre 27. Réjouis-toi, jeune homme, durant ta jeunesse, et amuse-toi dans les jours de ton adolescence. Marche dans les voies de ton caprice, et selon ce qui te semble agréable. Écarte le souci de ton cœur, épargne toute fatigue à ta chair. Hâte-toi, car la jeunesse et la fraîcheur passent vite. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours du mal et qu'approchent les années dont tu diras « Rien ne m'y plaît ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages remontent aussitôt après l'ondée. Moi, c'est un texte que je relis au moins une ou deux fois par an. C'est un texte que je trouve absolument splendide, qui me permet, je sais pas, de... C'est une éthique de vie, en fait. J'ai l'impression que ça permet d'établir un rapport au monde qui voit bien la friabilité de l'existence, l'évanescence de toute chose. Et j'y trouve un soulagement inouï, en fait, dans ce texte. Donc voilà, j'espère que vous y trouverez le même soulagement et que ce que je viens de vous lire vous donnera l'envie de découvrir ce texte. Parce que moi, ça a été vraiment une révolution dans ma vie.
L'émission a été préparée par Perrine Malinge, la prise de son a été faite par Maxime Goudard et le mixage par Marie Potier. La semaine prochaine, Félix Moati lira du Marguerite Duras. Bonne soirée sur France Inter.